Bonjour à tous. Israël se dit mécontent des résultats obtenus jusqu'à présent par l'armée libanaise dans les zones pilotes où elle est chargée de désarmer le Hezbollah.
Le président américain Donald Trump a promis de riposter aux frappes menées dans la nuit de dimanche par l'Iran contre les forces américaines en Jordanie.
C'est la rentrée en Israël. 2,6 millions d'élèves reprennent les cours aujourd'hui alors que le système éducatif est confronté à une importante pénurie de personnel.
Et enfin, en Belgique, tout le monde va ressentir les conséquences. C'est le message qu'a tenu Bart De Wever avant les discussions sur le budget. Le ministre de la Défense Israël Katz a approuvé une vaste série de nominations au sein de Tsahal, dont celle de Dado Bar Khalifa à la tête du commandement central, en remplacement du général Avi Blout.
Une nomination qui avait suscité la polémique il y a déjà 3 semaines. Né en 1976, Dado Bar Khalifa a rejoint Tsahal en 1995. Il a été Golani, puis il a dirigé les Givati et la brigade sud de la division de Gaza avant d'être nommé à la tête de la direction des ressources humaines de Tsahal. À la tête du commandement central, il sera notamment chargé des opérations de l'armée en Judée-Samarie. D'autres nominations à la tête des Givati, de la brigade Nahal, des parachutistes et des commandos ont également eu lieu hier.
Tsahal a démoli plusieurs structures illégales implantées en Judée-Samarie.
Certaines se trouvaient à proximité directe de la barrière de sécurité, non loin des localités israéliennes de Bat Refer et Ba'an. Régulièrement pointées du doigt par les responsables de la sécurité, ces constructions érigées en zone C violaient sciemment un arrêté d'interdiction de construire et représentaient un risque immédiat pour les riverains. Des infrastructures clandestines qui ont donc été détruites afin de protéger l'environnement et le patrimoine culturel.
Israël se dit mécontent des résultats obtenus jusqu'à présent par l'armée libanaise dans les zones pilotes où elle est chargée de désarmer le Hezbollah dans le sud du pays, 1 mois et demi après le lancement de ce dispositif.
Un haut responsable américain a même affirmé que certains officiers de l'armée libanaise eux-mêmes ne souhaitaient pas, à ce stade, un retrait de Tsahal du sud-Liban. Ils craindraient qu'un départ des forces israéliennes ne permette au Hezbollah de revenir rapidement dans les zones où il a été écarté. « Nous travaillons avec les deux parties pour parvenir à un futur arrangement, mais cela prendra du temps », a indiqué le responsable américain.
La marine israélienne renforce sa vigilance face à l'expansion des activités militaires turques en Méditerranée orientale.
Selon le Jérusalem Post, Israël veut dissuader Ankara de s'implanter dans des zones stratégiques autour de Chypre, de la Grèce, de Gaza et surtout de la Syrie. Israël qui a récemment frappé la base aérienne d'Abu al-Dour après avoir affirmé que la Turquie envisageait d'y installer des troupes, des radars et des systèmes de défense. Israël qui refuse aussi la participation turque à une éventuelle force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza. Face à Ankara, l'État hébreu renforce ses relations militaires avec la Grèce et Chypre. La position de l'Égypte est plus complexe. Le Caire multiplie actuellement les exercices et les accords militaires avec la Turquie, mais les deux pays conservent des intérêts opposés en Libye et en Méditerranée. Selon des responsables israéliens, cela pourrait donc permettre une coordination entre Israël, l'Égypte, la Grèce et Chypre pour contenir les ambitions maritimes turques. Et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a appelé la Turquie à contribuer à la stabilité régionale.
Je ne pense pas que nous sachions encore pleinement s'ils sont utiles ou non, espérant qu'ils décideront de l'être. Ce sont les mots de Mike Huckabee.
Le président américain Donald Trump a promis hier de riposter aux frappes qui ont été menées dans la nuit de dimanche par l'Iran contre les bases américaines en Jordanie.
Oui, et ce alors que les tensions se sont à nouveau intensifiées entre les deux camps après un mois d'accalmie dans les combats. Après 6 mois de guerre, les adversaires restent dans l'impasse. L'Iran maintient la fermeture du détroit stratégique d'Hormuz, tandis que les États-Unis persistent dans leur contre-blocus naval de l'Iran et menacent d'imposer des sanctions paralysantes. « Nous allons les frapper fort », a déclaré Donald Trump Fox News quelques heures après avoir publié une vidéo générée par intelligence artificielle montrant une attaque contre l'île iranienne de Karg que le vice-président américain J.D. Vance a qualifié plus tard dans la journée devant les journalistes de simples messages adressés aux Iraniens et non d'indications de plan d'attaque américain. Il y aura une riposte, a assuré Donald Trump à la chaîne américaine, ajoutant que la quasi-totalité des missiles lancés par l'Iran avaient été interceptés.
Et le vice-président américain J.D. Vance a justement vivement attaqué les dirigeants iraniens, les qualifiant de vraiment fous.
Il a mis en cause leur stratégie dans le détroit d'Ormuz, alors que les États-Unis poursuivent leur opération pour garantir la circulation des navires commerciaux dans cette voie maritime stratégique. Interrogé également sur la chaîne Fox News sur les enseignements qu'il tirait de la guerre contre l'Iran, J.D. Vance a estimé que les dirigeants de la République islamique étaient prêts à prendre des mesures extrêmes pour perturber les exportations de pétrole et de gaz, quitte à s'en prendre à leurs propres alliés. Ce que j'ai appris, c'est que ces gars-là, je parle des dirigeants du pays, sont vraiment fous, a-t-il déclaré. Selon lui, Téhéran agit de sans grande sagesse stratégique dans sa volonté de réduire au maximum la circulation des hydrocarbures. Le vice-président américain s'est notamment dit surpris de voir les forces iraniennes tirer parfois sur leurs propres alliés pour entraver le trafic maritime.
La Thaïlande va réduire de 60 à 30 jours la durée de séjour sans visa accordée aux touristes israéliens. On le sait, de nombreux Israéliens visitent la Thaïlande. Ce changement de politique en matière de visa ne vise pas spécifiquement les Israéliens et concerne des dizaines de pays. Il survient toutefois à un moment où les touristes israéliens font l'objet d'une attention croissante en Thaïlande.
C'est la rentrée aujourd'hui en Israël. 2,6 millions d'élèves reprennent les cours.
Environ 180 000 d'entre eux entrent au CP et 143 000 en terminale. La première semaine sera consacrée à l'intégration, la résilience et la lutte contre le harcèlement. Autre grande nouveauté, l'introduction de l'éducation financière dans le secondaire et l'intelligence artificielle qui prendra une place beaucoup plus importante dans les enseignements. Cette rentrée intervient pourtant dans un contexte difficile pour le système éducatif israélien confronté à une importante pénurie de personnel. Il manquerait, selon le Bureau central des statistiques, plus de 30 000 enseignants dans le pays. Les besoins sont particulièrement élevés en hébreu, en mathématiques, et les sciences enregistrent un manque de plus de 4 000 professeurs, l'anglais plus de 3 500. La question des salaires reste également au cœur des difficultés de ce secteur. Un enseignant débutant gagne aujourd'hui 7 000 shekels contre 22 300 pour un enseignant expérimenté. En parallèle, une récente étude faite en 2022-2023 place les enseignants israéliens au 17e rang sur les 20 pays développés étudiés en matière de compétences.
Une rare interview de Sarah Netanyahou, la femme du Premier ministre, provoque une nouvelle polémique en Israël.
Invitée hier soir sur la chaîne 14, l'épouse du Premier ministre israélien a évoqué les attaques dont elle affirme être victime avec ses enfants depuis l'entrée de Benjamin Netanyahou en politique. Interrogée sur la théorie d'une possible trahison de l'intérieur le 7 octobre, elle a refusé de l'écarter, estimant qu'une véritable commission d'enquête devait établir les faits. Elle a ensuite mis en cause Yair Golan, ancien numéro 2 de Tsahal et actuel dirigeant du parti Les Démocrates. Ces insinuations ont immédiatement déclenché une avalanche de réactions. Benny Gantz et Gadi Eisenkot ont rappelé que Yair Golan avait risqué sa vie et participé au sauvetage des civils le 7 octobre. Le parti Les Démocrates accuse de son côté Sarah Netanyahou d'avoir franchi une ligne rouge en insinuant que son dirigeant avait été prévu de l'attaque. Yair Golan a finalement annoncé ce matin sur les ondes de la radio militaire Galit Tzahal qu'il déposerait plainte en diffamation contre l'épouse du Premier ministre.
C'est une alliance inédite dans la politique israélienne. Yoav Segalovitz, ancien député de Yesh Atid et ancien vice-ministre de la Sécurité intérieure, rejoint la liste du parti arabe Ra'am de Mansour Abbas. Il en occupera la deuxième place lors des élections du 27 octobre.
Yoav Segalovitch sera le premier candidat juif présenté par le parti arabe Ra'am. Il ne deviendra pas toutefois membre du parti. Il s'agit d'un accord électoral. Il conservera donc sa liberté de vote sur d'autres questions comme la religion, la sécurité ou les droits LGBT. Au cœur de cette alliance, la lutte contre la criminalité dans le secteur arabe. Il avait déjà piloté ce dossier dans le gouvernement Bennett-Lapid et souhaite développer un projet de service civique et national destiné aux citoyens arabes. Mansour Abbas présente cette arrivée comme une nouvelle étape dans la construction d'un partenariat politique entre juifs et arabes. Segalovitch affirme qu'il défend la coopération malgré des divergences. La démarche divise la classe politique. Yair Lapid estime que son ancien partenaire commet une erreur. Le Likoud et Itamar Ben-Gvir ont vivement critiqué cette alliance. Les démocrates l'ont salué. Mansour Abbas espère aussi que ce rapprochement augmentera la participation des électeurs arabes aux élections du 27 octobre et facilitera l'entrée éventuelle de Ra'am dans une future coalition gouvernementale.
Une perturbation exceptionnelle touche le réseau d'eau israélien. 5 des 6 principales usines de dessalement ont dû suspendre temporairement leur activité.
Les premières conséquences ont concerné l'agriculture dans le sud du pays. L'utilisation d'eau douce pour l'irrigation a été fortement réduite, voire suspendue. Les perturbations ont ensuite gagné le centre du pays. Les habitants de Givatayim, Jérusalem et Rishon LeZion ont été invités à économiser l'eau et à éviter d'arroser les jardins ou de remplir des piscines. Pour maintenir cet approvisionnement, Mekorot utilise d'autres ressources disponibles. Les autorités israéliennes espèrent un retour progressif à la normale à mesure que l'eau de mer retrouvera sa clarté. Hier, une femme a poignardé deux personnes à Times Square, tuant l'une d'entre elles avant d'être neutralisée au taser par des agents du NYPD.
Oui, l'agresseuse présumée, identifiée comme étant Pamela Cisneros, âgée de 49 ans, a également été touchée par balle par la police lors de l'affrontement et est décédée plus tard à l'hôpital Bellevue. L'attaque s'est produite peu avant 16h30 sur la 7e avenue à Times Square. Pamela Cisneros aurait poignardé une femme de 32 ans et un homme de 68 ans.
Un juge australien a rejeté la définition de l'antisémitisme donnée par l'IRA. L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et a statué que le graffiti fuck Israël n'était pas antisémite.
Le juge Desmond Fagan de la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a fait ses déclarations dans le cadre du récent arrêt rendu dans l'affaire État de Nouvelle-Galles du Sud contre Mohamed Farhat. L'affaire concerne donc cet Australien qui a commis une série d'actes de vandalisme en novembre 2024. Il s'agissait notamment de peindre à la bombe des slogans tels que PKK ou PKK coming, faisant référence au parti des travailleurs du Kurdistan turc, ainsi que fuck Israël sur des véhicules et des bâtiments de la banlieue de Sydney à Woollahra et d'avoir incendié un véhicule.
Un tribunal français ordonne à un grand festival de photographie de remettre en exposition une photo représentant deux équipes de football de Gaza qui avait été retirée à mi-parcours de l'exposition.
Les organisateurs du festival Images de sport de Deauville avaient discrètement retiré cette photo prise par le photographe de Gaza Jihad Al-Shafi pour l'agence de presse Associated Press, sur laquelle on voit les deux équipes sur un terrain entouré de bâtiments détruits. L'avocate de la mairie de Deauville, Marie-Thérèse sur le Libou, a défendu cette décision, affirmant qu'il existait un risque de trouble à l'ordre public et que les autorités municipales avaient constaté un torrent de haine sur les réseaux sociaux sans toutefois donner d'exemple. Le tribunal suspend l'arrêté pris par le maire de la station balnéaire de la Manche le 20 août, estimant qu'il n'était ni nécessaire ni proportionné. L'exposition consacrée aux valeurs du sport a ouvert ses portes en juin et doit se poursuivre jusqu'au 6 septembre.
Tout le monde va ressentir les conséquences. C'est le message qu'a tenu Bart De Wever avant les discussions sur le budget en Belgique.
Le Premier ministre s'est exprimé sur les économies budgétaires à venir dans une interview diffusée sur Bell RTL hier. Nous sommes dans une situation où tout le monde va ressentir les conséquences de ce que nous faisons, peu importe comment nous le faisons, a-t-il déclaré. Le Premier ministre était interrogé sur son état d'esprit alors que le gouvernement fédéral devra décider d'importantes économies dans les prochaines semaines. Il est question de trouver environ 10 milliards d'euros d'ici 2029. La séquence est un extrait d'une interview d'une heure enregistrée en début du mois d'août et diffusée dans un podcast hier. « Je ne dors pas bien et je pense beaucoup à ça », a-t-il confié, estimant que chacun espère que les efforts seront demandés aux autres. « Tout le monde pense, si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi », a déclaré Bart De Wever. Le Premier ministre qui estime par ailleurs que la population est mûre pour ses économies et qu'elle est davantage consciente des difficultés auxquelles la Belgique et l'Europe sont confrontées que ne le pensent les responsables politiques. On vous pose donc la question du jour pour demain. Les Belges sont-ils vraiment prêts à se serrer la ceinture pour sauver l'économie du pays ?
En réaction à la reprise des vols pour Tel Aviv, le syndicat chrétien ACV plus dépose un préavis de grève chez Brussels Airlines, estimant que les accords sur le volontariat n'ont pas été respectés.
Le syndicat chrétien ACV Pulse a donc déposé un préavis de grève en raison de la décision de Brussels Airlines de reprendre ses vols vers Tel Aviv dès ce mois-ci, tout en réquisitionnant du personnel. La compagnie aérienne rompt ainsi les accords passés avec les syndicats qui stipulaient que seuls des volontaires seraient sollicités. C'est ce qu'a indiqué le syndicat dans un communiqué ce matin.
À partir d'aujourd'hui, la Belgique fait ses adieux à un code pénal qui remonte en grande partie à 1867.
Le nouveau code pénal vise à rendre le droit pénal belge plus clair et plus moderne, mais modifie en même temps de manière fondamentale la manière dont les infractions sont classées et sanctionnées. La distinction classique entre les contraventions, les infractions et les crimes disparaît. La peine d'emprisonnement est expressément considérée comme un dernier recours et plusieurs nouvelles infractions font leur apparition. Cette réforme intervient après des années de préparation et avait déjà été reportée passer du 8 avril au 1er septembre 2026. Selon le SPF Justice, un délai supplémentaire était nécessaire pour finaliser la législation requise, les systèmes informatiques et les préparatifs pratiques. Le changement le plus fondamental réside dans la nouvelle échelle des peines. Désormais, il n'existe plus qu'une seule catégorie générale d'infraction subdivisée en 8 niveaux de peine. Le niveau 1 est le plus léger, le niveau 8 le plus grave. Chaque niveau est associé à un cadre de sanctions qui lui est propre. Le niveau 1 ne prévoit pas de peine d'emprisonnement comme peine principale, tandis que le niveau 8 permet de prononcer une peine d'emprisonnement à perpétuité. Les autres nouveautés dans ce code pénal sont les suivantes. De nouvelles infractions et des peines plus sévères mettent notamment l'écocide et l'homicide involontaire routier davantage au centre de l'attention pénale. Une nouvelle sanction financière peut atteindre jusqu'à 3 fois le profit réalisé ou escompté tiré d'une infraction. Des principes importants issus de la jurisprudence et de la doctrine sont désormais explicitement inscrits dans le code pénal. La peine d'emprisonnement devient explicitement un dernier recours, laissant davantage de place aux peines alternatives. Et enfin, les anciens dossiers resteront soumis à l'ancienne législation pendant plusieurs années, tandis que les avocats anversois devront dès aujourd'hui se présenter à nouveau au tribunal avec des documents papier.
Et un mot de football pour finir. Lionel Messi a annoncé hier mettre un terme à sa carrière internationale avec l'Argentine.
Le capitaine de l'équipe championne du monde en 2022 et finaliste en 2026 met fin à 20 années passées sous le maillot albicéleste bleu et blanc. L'octuple Ballon d'Or a inscrit 125 buts en 207 sélections avec l'Argentine. Il avait déjà pris une première fois sa retraite internationale en 2016 à la suite d'une défaite en Copa América avant de revenir pour la Coupe du Monde 2018 en Russie et de triompher 4 ans plus tard au Qatar. Son palmarès avec l'Argentine comprend également donc 2 Copa América en 2021 et 2024, un titre olympique en 2008, une finalissima en 2022 et un mondial des moins de 20 ans en 2005. Ses succès en sélection ont cimenté sa place dans le panthéon du football argentin aux côtés de Diego Maradona.